arrivé.
On est
dans la neige.
Et c'est dans la neige, j'espère qu'ils sont un peu plus frais que nous, parce que nous il fait un peu chaud. Hein. Voilà, on va commencer l'émission avec les petites nouvelles, les dernières nouvelles qui commencent à arriver, où Daniel Warling va commencer à nous parler de l'Observatoire.
Bah, les grandes nouvelles, c'est-à-dire que pour l'instant rien n'est fait, mais vous savez peut-être, je vous l'ai dit, mais je vous ai promis de vous en parler plus longuement, ce fameux observatoire de la rue de Flandre, qui est rue de Flandre-Dunkerque maintenant, et qui était l'ancien observatoire de l'école d'hydrographie, qui avait une vie prestigieuse au siècle, pas dernier, mais au 19e siècle, puisqu'il avait servi pendant près de 60 ans d'observatoire de l'école d'hydrographie de Nantes. Donc c'était un des hauts lieux d'astronomie à Nantes. Nantes qui était un grand port, et comme tel, effectivement, avait un observatoire pour les mesures au méridien, pour donner l'heure aux marins, pour les problèmes de longitude. Donc,
pour vérifier les pendules,
voilà, tout ce qui était. Ce qu'on appelle les chronomètres, hein, qui étaient les montres extrêmement précises que les marins emportaient en mer pour savoir où ils étaient, tout simplement. Donc, ça, c'était un grand problème. Alors, au 19e siècle, il y avait d'ailleurs plusieurs observatoires, mais celui-là était pratiquement méconnu. Il a été redécouvert vraiment récemment et. Grande surprise, et effectivement, c'est une propriété de la Caisse d'épargne. Donc, vous pensez bien que les gens passionnés sont un peu mobilisés. On s'est inquiété de savoir ce qu'il allait devenir et si on pouvait le récupérer pour en faire notamment un observatoire populaire. Alors,
le premier but, en fait, c'est de sauver le.
C'est de le sauver. Alors,
le monument, en fait,
oui, parce que on apprend très très étrangement qu'il serait mis en vente. Alors, bien sûr, on a écrit à la direction de la Caisse d'épargne, qui est propriétaire de cet observatoire. Jouxtant cette tour observatoire qui est actuellement désaffectée, mais en excellent état de conservation architecturale. En plus, elle est construite un peu sur le mode de l'Observatoire de Paris, avec des voûtes, enfin des pierres de taille, c'est absolument magnifique. Il y a vraiment de quoi en faire quelque chose de splendide pour l'observatoire populaire, planétaire, en ville, etc. Et jouxtant cette tour, il y a une salle de qui était une ancienne salle de cinéma, donc une salle de 500 places, une salle de conférence rêvée. Donc voilà, on se met à rêver, et bien sûr on a écrit à la ville de Nantes, au maire et à la direction de la Caisse d'épargne, pour déjà tenter de le sauver. Le sauver de quoi? Mais probablement d'une destruction, parce que ce qui serait atroce, mais c'est le sort qui est réservé aux vieux bâtiments lorsqu'on ne sait pas, finalement, lorsqu'on n'en connaît pas l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on fait tout maintenant pour sauver ce patrimoine, et aussi doter la ville de Nantes d'un observatoire populaire. C'est le rêve le plus cher de la Société d'Astronomie, hein. Je vous promets que on fera des émissions fabuleuses à ce moment-là.
Tout à fait.
Donc voilà pour cet observatoire, mon cher Thierry. Alors je crois qu'il y a une nouvelle quand même aussi, enfin, plus chaude si c'était possible.
On va dire plus chaude, ou entre guillemets, oui. Plus fraîche, puisque c'est passé en pleine journée.
Plus fraîche et en même temps plus chaude.
La dernière émission, on a notre ami Frédéric Guinel qui nous a parlé, on a parlé du soleil lors de la conférence de Jean-Paul Zanne. Il nous a dit, bien sûr, il allait partir en Zimbabwe pour observer la première éclipse du siècle, qui s'est déroulée le 21 juin,
le jour du solstice.
L'idéal. Et donc, en fait, il nous a envoyé un petit message pour nous tenir au courant. Donc, apparemment, il l'a vu.
Frédéric Guinel
a vu une magnifique éclipse au Zimbabwe, avec tout ce qui va avec, hein, grande, longue, 3 minutes, hein, plus de 3 minutes. Hein. C'était impressionnant. En 99, c'était 2 minutes. Hein.
Ça s'appelle un soleil noir. Alors, ouais. Au Zimbabwe, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal en plus. Donc, Gecko Rono, protubérance, bref, comme on dit, la totale d'une totale. Autrement,
était plus belle. C'était pas difficile de faire mieux que l'Europe en 99.
Tout à fait. Parce que ils ont eu beau, hein, ils ont retourné dégager. Une petite anecdote qui nous compte dans son message, pour nous dire qu'au retour du soleil, ce fut le délire, bien sûr, et le coq du village a même chanté à 5 minutes après la nuit, provoquant l'hilarité générale. C'est-à-dire que le coq s'est réveillé pendant les 3 minutes de totalité, et 5 minutes après, c'était à nouveau l'aube. Donc, on vous en reparlera peut-être un peu, mais c'était une éclipse de soleil, c'est quand même bien à parler. On l'a observé, c'était vraiment très bien.
Alors,
on va parler un peu maintenant l'année 2001-2002, puisqu'on est en plein fin d'année.
Tout à fait, on va vous parler déjà en avant-première du cycle de conférences tel qu'il est prévu en 2001-2002, donc avec une série de 10 conférences, plus éventuellement une conférence hors cycle. C'est pas une surprise, on a demandé à Hubert Reeves de revenir à Nantes, et ça sera probablement premier semestre 2002. En attendant, donc nous avons un certain nombre de conférences. Le 12 octobre, ça commence le 12 octobre cette fois-ci.
Voilà, faut surtout noter que ça commence le 12 octobre, oui. Les conférences, vous aurez les programmes qui devraient normalement cette année exceptionnellement un travail bien effectué, notre président.
Ils seront prêts dès juillet.
Normalement, la plaquette va sortir en juillet.
Il reste à boucler un certain nombre de points de partenariat et autres. Mais le programme est arrêté. Donc, il y aura Thierry Montmer, qui est astrophysicien, pour les embryons d'étoiles, la vie des très jeunes étoiles, au moment où elles naissent. Hein. Embryons d'étoiles et bébés soleil, si c'est pas joli comme titre.
Tout à fait.
Le 12 octobre, le 16 novembre, toujours en Bretagne, l'origine de la Lune. Parce que figurez-vous qu'on ne sait toujours pas comment elle s'est formée, cette Lune.
André Braik en a déjà parlé lors de sa dernière conférence, qu'il y avait plusieurs théories qui s'affrontaient, entre guillemets. Mais
voilà, et on a. Alors, pour trancher. Pour apporter un maximum d'éléments, un nouveau, Willy Benz, qui est un Suisse, qui viendra de Berne avec un accent absolument magnifique. Vous verrez. Le 14 décembre, en 2001, la science tourne-t-elle en rond? Je crois qu'il est temps de se poser les vraies questions. Vous savez qu'à la Société d'Astronomie, on se les est posées depuis quelques mois, on a fait un groupe là-dessus, et vraiment, on trouve des choses étonnantes, et je crois que on vous les livrera au fur et à mesure, et il faut vraiment que cette science arrive à s'arracher de ses pesanteurs, de ses croyances, parce qu'il y a un mélange de foi, de science, enfin, pas de foi religieuse, hein, mais
des foi dans une théorie,
voilà, dans certaines théories qui sont pas bien comprises. Et je crois qu'il y a très peu, ça fait prétentieux de dire ça, mais je crois que grâce aussi à des gens comme Laurent Nottal ou Jean-François Gauthier qui nous ont apporté énormément de réflexions sur la science, on est en train de se dire qu'il y a vraiment peut-être très peu de gens qui comprennent vraiment les grands défis de la physique moderne, notamment la relativité, etc. Donc,
tu fais bien de parler de Laurent Nottal, justement, parce que ça va être le sujet de la prochaine émission Pulsan du mois de début juillet.
Oui, sa conférence sur l'univers fractal, mais en même temps, je crois qu'il a sorti récemment un nouveau livre. Oui, c'est un scoop. Je viens de l'apprendre dans la cour grâce à nos amis du forum du livre. Alors, donc la science tourne-t-elle en rond? Christian Magnan, qui est un physicien, astrophysicien, mais en même temps qui se pose des questions. Après, nous passons en janvier, la 11e semaine de l'astronomie, on est déjà la 11e. Alors là, ça commence lundi. Ça va du lundi au vendredi, 5 conférences. Une belle semaine.
Le marathon de l'astronomie.
Le petit marathon. Alors, Pythéas, explorateur et astronome. C'était un grand navigateur, Pythéas. C'était au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait découvert, pratiquement les Amériques par Yvon Georgelin, qui est ancien directeur de l'Observatoire de Marseille. Et c'est lui qui a découvert la structure spirale de la Voie lactée. C'est pas n'importe qui. Ensuite, le 22 janvier, eh bien, nous invitons notre ami Olivier Sauzereau, justement, pour nous parler des observatoires à Nantes. Hein, et magnifique conférence, on l'a entendu. Il y a vraiment, notre ville est vraiment très, très, très riche. Le mercredi 23 janvier, les astronomes et les marins au siècle des Lumières. Guy Boistel nous racontera tout ce que les astronomes ont mis au point comme pédagogie pour apprendre, non pas aux marins à naviguer, mais pour les aider à mieux naviguer grâce aux étoiles. Le 24 janvier, les sources de rayons cosmiques ultra-énergétiques par Ludwig Selnicker, qui est astronome à l'Observatoire de Meudon. Et après, le vendredi 25, Daniel Briot. Voilà, l'Observatoire de Paris, Daniel Briot, qui raconte l'histoire de cet observatoire avec un Briot tout à fait étonnant. Elle nous a totalement conquis, alors on lui a demandé de venir. Après, nous passons en mars, le 1er mars, les anneaux des planètes par un des découvreurs des anneaux de Neptune, qui est Bruno Sicardi.
Co-découvreur, oui.
Et enfin, le 29 mars, donc fin mars, des galaxies au quasar par Françoise Combes, astrophysicienne. Donc, de nouveau, un très beau programme. Évidemment, l'année dernière, c'était nos 30 ans. Alors, on a fait revenir beaucoup de gens qu'on connaissait. Donc, c'était un peu. Et ça est loin, c'était loin d'être du réchauffé parce que ça a été une année absolument éblouissante qui s'est terminée, bien sûr, par cette conférence totalement époustouflante d'André Braik. Cette année, ce sera de nouveau un très beau cycle. Vraiment, je vous invite. Alors, vous découvrirez ces programmes un peu partout, Office du Tourisme, etc. Et si ça vous plaît, si vous voulez venir à plusieurs conférences, vous avez intérêt à vous abonner. On n'est vraiment pas très cher. Hein, le but, c'est vraiment de faire partager cette science merveilleuse, l'astronomie, et cette passion. Donc, voilà, venez à ces conférences, c'est pour tout le monde. Et puis, si vous comprenez pas tout, après tout, est-ce que vous comprenez tout quand vous avez écouté une fugue de Bach? Je suis certain que non. Alors, pourquoi se priver de la science?
T'as bien raison, Tomia, faut toujours venir, puisqu'on apprend toujours quelque chose.
Mais oui.
Pour ceux qui n'ont pas le temps de noter toutes les dates, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de la SAN, san-fr.com, le site internet. Et dans la page agenda, vous avez la liste de toutes les conférences. sachant que les résumés des conférenciers et des conférences viendront pour la prochaine mise à jour. Transition toute trouvée en parlant d'internet pour vous dire qu'il y a une nouvelle page qui vient d'arriver sur le site internet, c'est tout chaud, ça date de il y a 3 heures. En fait, c'est le dessin. Vous avez une page qui explique comment faire des dessins avec notamment des gabarits téléchargeables. C'est-à-dire que vous avez
c'est pour dessiner les surfaces des planètes.
Ça vous fait un modèle avec en fait le rond qui a la bon diamètre, etc. Ouais. Et puis les informations qu'il faut mettre qui vous aident à dessiner les planètes. Puisque en fait, il y a un phénomène important dans le ciel actuellement, c'est Mars. Mars qui se rapproche de nous.
Mais qui est en opposition, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a au minimum de la distance qu'il peut avoir avec la Terre. Pas tout à fait, parce que tous les 2 ans, il revient dans cette position. Et il y a des années qui sont
plus favorables
que d'autres. Et on va vers des années encore plus favorables.
Tout à fait. Donc là, cette année, c'est une année qui est déjà impressionnante. Si vous avez la chance, c'est pas compliqué pour trouver Mars. Vous orientez plein sud. Et vous regardez une espèce de toile orangée, c'est Mars.
Voilà, le seul qui
prenez
qui
n'importe
crache.
Quel instrument, vous essayez de la voir. Instruments, c'est-à-dire jumelles, télescopes, etc.
On la voit bien.
Si vous avez des talents de dessin ou vous essayez au dessin, vous téléchargez les gabarits sur le site internet et puis vous mettez au dessin martien. Profitez-en puisque Mars ne reviendra, comme l'a dit Daniel, dans cette configuration que dans 2 ans. Donc après, Mars, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas très observable dans l'année, sauf avec des très gros instruments. Donc là, l'avantage, c'est que c'est à portée de tous les instruments. Daniel, une petite dernière information ?
Oui, bien sûr, j'ai une petite information, parce que nos amis de Saint-Nazaire, du club Astronomie de la Presqu'île, qui est presque une île, mais on espère que ça ne sera pas tout à fait une île.
Presqu'île, pour l'instant.
En tout cas, pas pour l'instant, qui nous demande effectivement de faire la publicité, plus que ça, je vous encourage franchement à aller les voir. Ils sont passionnés, ils sont drôles, ils connaissent plein de choses. Et ils organisent une observation le 29 juin, vendredi 29 juin, sur le site du mégalithe, le site mégalithique en fait, du tumulus de Dissignac. Alors,
je crois qu'il y a on devrait
connaître. J'ai grand honte de ne pas encore avoir été. Monter au tumulus de Dissignac, c'est donc un site mégalithique, donc un haut lieu de. Après tout, c'est peut-être ça qui leur donne cette pêche. Hein. Ils s'alimentent périodiquement, ils vont se recharger, ils s'assoient sur le tumulus.
À l'époque, le tumulus, c'était axé sur certains axes où les druides, ça permettait de ressourcer en énergie, etc. Donc,
Alors attention, on va dériver là dans les sciences. Non, c'était occulte. Quand je dis s'asseoir, il ne faut pas tout de suite penser au culte, n'est-ce pas, cher ami?
Comme nous dit notre ami Frédéric Cavalier qui a travaillé sur les Celtes, etc., les tumulus sont orientés sur le solstice d'été. C'est Frédéric qui est à la technique qui vient de me dire ça.
Ah oui, donc, en effet.
L'ouverture d'un tumulus est orientée sur le solstice.
Formidable. Donc en fait, puis même, elle est orientée pile poil sur le méridien au solstice, mais pendant une certaine période, c'est encore bon. Donc à 21h30, il faut y aller. Et c'est, le vendredi 29 juin, près de Saint-Nazaire, sur le site mégalithique du tumulus de Dissignac, à 21h30, une observation de Mars, donc on vient d'en parler, et de la Lune.
Tout à fait, qui va être belle dans les jours à venir.
Et vous allez vous régaler, et puis bon, Stéphane Danet et ses acolytes sont vraiment merveilleux, et puis ils sont des amis de la SAN, je crois que c'est leur plus grande qualité.
Voilà. On leur a ouvert les ondes il y a quelques mois, je crois, pour parler un peu de leurs activités. Il faut rappeler quand même qu'Alternante est diffusée à Nantes et à Saint-Nazaire.
Et à Saint-Nazaire, à Trignac, exactement, mais enfin sur Saint-Nazaire. On leur souhaite longue vie, que le club de la Presqu'île vive longtemps, fasse des étincelles. Enfin, ne nous rajoutez pas d'étoiles quand même si vous nous entendez, hein, mes chers amis. Voilà, donc un petit bonjour à nos amis, puis voilà, on va faire comme à la télé, coucou au petit tonton.
Tout à fait, merci Daniel. Nous allons aborder la première partie de l'émission consacrée à l'histoire de l'univers, où en fait on va vous parler de la conférence qu'a eu Jean Audoux, c'est Daniel Warling qui va vous parler de ça. Alors Daniel, Jean Audoux, il est venu nous faire une conférence au mois de février.
Voilà,
pour nous parler de l'histoire de l'univers. Alors, résume-nous un peu le sujet de la conférence.
Alors, d'une part, je vous représente un peu Jean Audoux, puisque bon, certains le connaissent. C'est un astrophysicien, c'est un des plus grands, c'est un des plus connus. Il est d'ailleurs, depuis quelques années, il fait des émissions de télévision. Enfin, vraiment, on commence à le connaître, mais nous le connaissions, bien sûr, depuis fort longtemps. Il est venu à Nantes à plusieurs reprises. Depuis les années 60, enfin depuis 80, par là, enfin très peu de temps après la création de la SAN. À l'époque, c'était quelqu'un qui étudiait donc la nucléosynthèse, c'est-à-dire la synthèse des éléments dans les étoiles. Enfin, il avait Donc il est directeur de recherche au CNRS, il a été directeur de la Grande Halle de la Villette, il a été conseiller de la présidence de la République, hein, sous Mitterrand. Il est ancien directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris.
Il a une biographie bien remplie.
Enfin bref, c'est quelqu'un, et vous pensez bien que ça fait partie aussi des personnages qu'on a beaucoup de mal à voir. Et c'est vrai qu'il est venu à Nantes parce qu'il nous connaissait, connaissait la scène, il avait confiance. Et c'est pas quelqu'un qu'on a comme ça. Donc, et on lui avait demandé de raconter ce qui lui ferait plaisir, ce qu'il avait envie de dire, avec toute son expérience, bien sûr, d'astrophysicien qui a derrière lui 30 ans de recherche, voire plus. Et il a souhaité parler de la constitution de l'univers et de son évolution au cours des 15 derniers milliards d'années. Alors, pour finir sur un résultat dont vous avez peut-être entendu parler, que l'univers serait plat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plat? Ça veut absolument pas dire qu'il est plat.
Il va en parler en entendant dans l'interview.
Voilà, il va en parler. Donc, l'idée, c'était vraiment d'entendre un grand astrophysicien s'exprimer un peu sur faire une synthèse sur tout cela. Alors, je crois qu'on va écouter l'interview et puis on va vous dire, on a trois petits morceaux là et puis on interviendra un petit peu et on fera un petit débat après. Merci.
Monsieur Audouze, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes heureux de vous recevoir bien sûr pour cette conférence qui va avoir lieu dans quelques instants où vous allez nous parler de l'évolution de l'histoire de l'univers. Alors même la question qui me vient tout naturellement compte tenu de votre passé d'astrophysicien, de physicien nucléaire, donc des particules subatomiques dès le départ, mais vous êtes intéressé. Peut-être qu'on va commencer par ma première question sera à quoi vous êtes-vous intéressé au début de votre carrière, donc après, au moment de votre thèse ? Avec Hubert Reeves, je crois.
Je me suis d'abord intéressé à des problèmes de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire les transformations des atomes les uns dans les autres. Comme vous pouvez le constater, il y a différentes espèces chimiques, carbone, l'azote, l'oxygène, mais aussi des substances beaucoup plus rares, le lithium, le bore ou que sais-je encore. Et donc mon travail a été d'essayer de comprendre comment certains éléments qui sont assez rares, qu'on appelle les éléments légers, lithium, beryllium, bore, comment ils se sont fabriqués à partir du carbone, de l'azote et de l'oxygène, qui sont plus lourds. Et alors, contrairement à ce qui se passe à l'intérieur des étoiles, où vous passez des éléments légers, hydrogène, hélium, à des éléments plus lourds, carbone, azote et oxygène, là, vous faites l'inverse. Alors, ça peut se passer ou à la surface des étoiles, ou dans ce qu'on appelle les sursauts, les flares, les sursauts stellaires, ou bien dans le milieu interstellaire par l'interaction de particules qu'on appelle le rayonnement cosmique, qui sont très énergétiques sur le milieu le gaz interstellaire, eh bien ces réactions permettent de comprendre comment on passe d'éléments très abondants à des éléments moins abondants, comme ceux que je viens de mentionner, lithium, beryllium, bore. Et à partir de là, on peut comprendre la physique de cette interaction. C'est-à-dire qu'on a un traceur, la répartition relative des abondances, qu'on appelle le pourcentage, si vous voulez, de la présence ou de la présence de ces éléments, et comment on passe, si vous voulez, de cette présence à des calculs sur les flux de ces particules, le temps qu'elles transitent dans le milieu interstellaire, etc. Alors après, comment passe-t-on à l'univers dans son ensemble ? Ça vient pas tout de suite. Ça vient du fait que en ce qui me concerne, si vous voulez, les éléments légers, lithium, beryllium, bore, sont fabriqués justement par ce rayonnement cosmique. Or, il y en a un qui est un peu hybride, qu'on appelle le lithium-7, c'est-à-dire celui qui a 7 nucléons. Il y a un autre qui est le lithium-6, qui n'en a que 6. Alors, le lithium-6, lui, n'est fait que par le rayonnement cosmique, mais le lithium-7, curieusement, il est fait à un moment, dans les phases primordiales de l'univers, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, entre guillemets, primordiale, qui a eu lieu globalement à l'échelle de l'univers, mais au moment où il n'y avait pas d'étoiles, mais le moment où la température de l'univers était à peu près de quelques milliers, de l'ordre du milliard à quelques dizaines de millions de degrés, puisque vous savez que le Big Bang suppose un refroidissement de cet univers. Et là, il se passe des choses intéressantes. Et justement, le lithium m'a amené naturellement à m'intéresser à ces réactions. Et à partir de là, on s'est aperçu que si on connaît la répartition relative de certains éléments, par exemple comme le deutérium, qui est l'isotope lourd de l'hydrogène, l'eau lourde dont on a parlé, qui sert à ralentir les neutrons dans les piles atomiques, eh bien, ce deutérium, la répartition entre ce deutérium et l'hydrogène vous donne une indication de la densité globale de la matière nucléaire. Voilà, si vous voulez, un peu le cheminement par lequel je suis passé mon intérêt sur des phénomènes stellaires aux phénomènes qui se passent dans le milieu interstellaire jusqu'à m'intéresser à la physique nucléaire qui s'est produite vraiment juste après, pendant ce qu'on appelle les 3 minutes, entre une seconde et 3 minutes après l'hypothétique Big Bang. Et à partir de là, bon, vous comprenez, quand on est là, on se dit, on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et alors là, on rentre dans un autre domaine qui est celui de la physique des particules, c'est-à-dire que là, ce n'est plus les noyaux qui sont importants, c'est les constituants des noyaux, d'abord les nucléons, protons, neutrons, puis avant ça, les constituants des protons et neutrons qui sont les quarks. Et en fait, la compréhension du Big Bang est un peu un exercice que les physiciens des particules sont les mieux à même de faire. Lorsqu'on parle, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de cette expression que l'expansion de l'univers a été accélérée par un mouvement dit d'inflation, eh bien c'est finalement, ces théories inflationnaires ont été introduites par les physiciens des particules qui voulaient chercher à unifier les forces fondamentales nucléaires, vous voyez. Donc, lorsque vous faites de la cosmologie, vous faites bien évidemment de l'astronomie, vous regardez les objets, vous regardez les amas de galaxies, vous utilisez les plus grands télescopes, et puis en même temps, vous êtes intéressé par les résultats des physiciens des particules. Donc il y a une communauté, on appelle ça astroparticules, qui est presque équivalent ou synonyme de cosmologie, parce qu'effectivement, si on comprend un jour pourquoi il y a plus de matière non nucléaire que de matière nucléaire, eh bien, ce sera la réponse, elle viendra nécessairement des accélérateurs du CERN ou de Fermilab, ou d'ailleurs, oui. Donc il y a finalement une espèce de convergence entre, on regarde loin, on regarde des amas de galaxies, on regarde les grandes structures de l'univers, on analyse le rayonnement diffus, le rayonnement à 3 degrés K de Penzias et Wilson, et puis on cherche le boson de Higgs, on cherche les quarks, et tout ça finalement procède de la même... Enfin, on arrive au même résultat, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un récit à peu près raisonnable sur ce qui a pu être l'histoire de l'univers. Voilà, si vous voulez, le cheminement par lequel je suis parti des réactions de spallation pour arriver à m'intéresser à la cosmologie.
Oui, vous avez en quelque sorte devancé ma question, puisque j'allais vous demander comment on passe des étoiles à l'univers tout entier. Mais je crois que c'est très important de rappeler, comme vous l'avez fait, que finalement, pour comprendre des choses qui sont très loin de nous, quelquefois on a recours à des expériences qui sont faites sur Terre. On reproduit ni plus ni moins d'ailleurs ce qu'avait fait par exemple Galilée à propos de la chute des corps, ce qui lui a permis finalement, ce qui a permis en tout cas aux successeurs d'établir la théorie de la gravitation. Et là, donc, vous avez étudié d'abord ce qui se passait dans les étoiles pour arriver après dans l'univers autour des étoiles, et grâce à ces réactions qui se passaient dans les étoiles, on peut comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'univers interstellaire, et retour donc en fin de compte sur les réactions dans l'univers primordial. Et c'est un petit peu ce que vous avez dit.
Oui, alors vous venez donc d'entendre Jean Audouze, en tout cas la première partie, puisqu'il y aura deux autres parties à cette interview, qui, je vous le rappelle, a été réalisée au mois de février dernier, lors de sa venue à Nantes pour sa conférence sur l'histoire de l'univers. Pour la petite histoire anecdotique, cette interview a été réalisée dans un hôtel. On a demandé un petit coin, enfin attendez, on n'a pas été au petit coin, on a demandé une petite salle pour faire cette interview. Alors, il y a eu un certain nombre de choses qu'on a rappelées donc dans l'interview lui-même, mais je voudrais revenir rapidement sur le lithium-7 dont parle Jean Audouze. Et en parlant de cela, il parlait justement de nucléosynthèse primordiale. Alors, juste un petit point. Dans le cadre de la théorie du Big Bang, on a donc cette matière originelle dont on connaît encore assez mal la structure, enfin, qu'il faut d'ailleurs étudier par la physique dite des particules ou la mécanique quantique, hein, c'est ce qui nous donne accès à ce type de matière. Et là, il naît, en dehors de l'hélium, de l'hydrogène et de l'hélium, naît un autre élément qui est le lithium-7. Ce lithium-7 que les étoiles ne savent pas fabriquer. Donc quand on trouve du lithium 7, on a une espèce de marqueur, on sait que c'est un truc qui a été fait, qui a été élaboré juste après ce qu'on appelle le Big Bang.
Parce qu'il faut dire quand même qu'après, tous les composants sur lesquels on est...
tous les atomes...
Les sont faits dans les étoiles.
Tous les matériaux.
Donc, en fait, le lithium 7 fait partie des éléments qui ne sont pas faits dans les étoiles.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Hein, tout ce qui nous constitue, carbone, etc., il l'a d'ailleurs dit, hein, c'est fabriqué dans la cuisson stellaire. Mais au début de l'univers, donc c'est hydrogène, hélium et ce fameux lithium 7. Donc ça, c'est un point important. Et donc on va écouter la suite hein, de l'interview tout simplement.
Un petit peu sur cette théorie du Big Bang et sur ce que la théorie cosmologique actuelle, elle a bien sûr bénéficié des retombées, on pourrait dire, de la physique nucléaire. Est-ce qu'elle intègre maintenant, est-ce qu'il y a d'autres pièces du puzzle qui viennent compléter ce qu'on connaît de cet univers primordial et qui sont pas forcément de l'ordre de la physique des particules?
Alors, ce qu'elle intègre bien, c'est, je dirais que la théorie du Big Bang est la fille naturelle de la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire que la relativité générale dit quelque chose d'important sur lequel, justement, Einstein s'est penché, c'est à savoir que il a écrit ces équations donc, qui décrivent le mouvement de tout, hein, et en particulier ce qu'il a montré, c'est que la présence de matière courbait, disons, introduit une courbure dans l'univers. Il a écrit ces fameuses équations dont il y a des formules un petit peu plus simples, mais finalement qui disent ceci, et ça a été apprécié par Hawking et Penrose, qui montrent que là, il n'y a pas de solution stable de la relativité générale. C'est-à-dire qu'un univers qui est, disons, décrit par la relativité générale est soit en expansion, soit en contraction. Il ne peut pas être au repos. Et il faut savoir que Einstein n'a pas apprécié, il l'avait bien senti, parce que c'est une conséquence mathématique de ces équations. Et il a donc inventé ce qu'on appelle la fameuse constante cosmologique. Hubble a découvert l'expansion de l'univers, évidemment, il a récusé cette fille indigne qui était sa constante cosmologique. Et nous, actuellement, lorsqu'on parle de quintessence, c'est-à-dire du fait que la matière proprement dite, l'énergie sous forme de matière, n'est pas suffisante pour expliquer le taux d'expansion de l'univers, eh bien, alors, certains diront énergie du vide, d'autres diront densité d'énergie primordiale, ou d'autres diront densité ou énergie qui se propage ou qui se perpétue ou qui naît ex nihilo au cours de l'expansion, enfin en tout cas. Eh bien là, effectivement, ce n'est plus la physique des particules, la physique nucléaire sont impuissantes à décrire, effectivement, ça ne suffit pas, si vous voulez, pour avoir une vision complète de cette théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, vous savez, moi, j'ai pas d'attachement religieux à son propos. Simplement, aujourd'hui, et c'est ce que je dirais lorsque je vais faire la conférence, enfin, mon propos, c'est qu'elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle rend compte de ce dont on dispose. Et ce qui est curieux, c'est que, par exemple, l'année dernière, on a un vol-ballon pour mesurer les distorsions du rayonnement fossile, et par bonheur, la théorie du Big Bang passe ce test. Un autre de mes collègues vient de l'Institut d'astrophysique, a pu mesurer la température du fond diffus il y a 12 milliards d'années, et puis il découvre que ce fond avait une température de 9-10 degrés Kelvin, c'est-à-dire qu'il va bien, c'est un point. Donc, elle a quand même, cette théorie, malgré son côté un peu, je dirais, ad hoc, hein, c'est pas agréable de se dire, il y a 15 milliards d'années, il y a eu un événement contingent qui s'est produit. Les physiciens n'aiment pas ça, hein, ça je dois dire. Et puis, donc j'aime pas bien ça, ça a un côté magique. Mais malgré tout, on est forcé de dire qu'aujourd'hui, les tests que l'on propose à cette théorie du Big Bang, eh bien, cette théorie, aujourd'hui, hein, j'ai suis venu il y a 8 ans ou 8 ou 9 ans dans votre ville, eh bien, je m'aperçois qu'en 8 ou 9 ans, il y a eu Kobe, il y a eu Boomerang, il y a la découverte des raies d'absorption autour des quasars de très, très grands redshift, et tout ça, pour le moment, ben, ça semble coller. C'est tout ce que je peux dire actuellement.
Alors, c'était donc la deuxième partie de cette interview de Jean Audouze. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir un peu l'avis d'un grand astrophysicien, qui nous dit maintenant, de but en blanc, effectivement, d'une part, il a parlé d'hypothèse du Big Bang dans sa première partie. Et là, il dit, j'ai pas forcément d'attachement religieux. Et en tant que physicien, ça me gêne quand on me dit qu'il y avait quelque chose de particulier il y a 15 milliards d'années. Hein, on aime bien, nous, les choses continues, etc.
Alors, aussi, comme il a dit, ça fait un peu magique le Big Bang en lui-même.
Voilà. Alors, il dit aussi que, par ailleurs, c'est cohérent. Alors, il faut peut-être se méfier aussi un petit peu d'une théorie cohérente, parce que c'est très facile pour une théorie de devenir cohérente une fois qu'elle est dominante. Hein, on va vous en reparler de ça. Maintenant, on n'entame pas ce genre de débat. C'est vrai que la théorie du Big Bang est quelque chose qui recueille l'assentiment d'une grande partie des majorités, même des scientifiques. Donc, tout n'est pas faux, bien loin de là. Seulement, il y a des petites choses encore qui doivent être longuement mûries et étayées. Et là, on en est loin. Je crois que le débat reste largement ouvert pour ce 21e siècle. En tout cas, pour ce qui est de la courbure de l'espace d'Einstein, moi, j'ai lu récemment que, effectivement, Einstein était devant un paradoxe. L'univers était à la fois infini et à la fois courbe. Et que toutes les masses, la somme des masses établissait une courbure ou qui faisait que l'univers revenait sur lui-même, en gros, et c'est un peu une des raisons pour laquelle il a rendu son univers clos, enfin en tout cas circulaire. L'autre raison est peut-être moins avouable, elle est religieuse, c'est que comme il croyait en Dieu, donc Dieu pouvait pas être à la fois dans l'univers et l'avoir créé. Donc il fallait bien qu'il soit fermé. Mais bon, c'est pas aussi réducteur que ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Alors, toutes ces questions de matière, etc., sont vraiment au croisement de ce qu'on appelle la physique quantique, où tout est encore à faire, comme le dit Laurent Nottal, il n'y a pas de théorie. Hein. Et la relativité, qui est le champ de l'infiniment grand. Voilà, on est donc vraiment au cœur des choses, et il nous a donné quelques éléments, je crois que c'est pour nous faire réfléchir, voilà. Donc je te repasse la parole, mon cher Thierry.
Donc c'était bien l'interview de Jean Audouze. On va voir la suite de l'interview tout à l'heure, mais tout de suite une petite pause Pulsan, parce que c'est Space. Space, comme disaient les Anglais, les pauvres Anglais.
Et opéra, ça veut dire une œuvre.
Voilà.
Opéra, c'est de l'italien, je crois. Hein.
L'espace est une œuvre à part entière, de toute manière.
Voilà.
Vous êtes en direct avec la Société L'Astrominante sur Alternante, 98.1 FM à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Et c'est l'émission Pulsan, une émission consacrée principalement aujourd'hui à l'histoire de l'univers, avec notamment une partie que va nous présenter Daniel Worling dans un instant. Hop, non, la régie me font signe, il n'y a pas de jingle.
Allez, vas-y, alors, je ne le connais pas par cœur celui-là, alors c'est pour ça que... il faut me donner les notes, là, les partitions.
Ouais, on n'a pas la partition, mais...
Comme ça, je vous les chante.
Aujourd'hui, les pauvres à la technique, ils ont chaud, donc les boutons doivent coller aux doigts, etc., donc... à toi Daniel. Donc on va passer la suite de l'interview de
la douce voix mélodieuse. Eh bien non, c'est donc tout.
Je pouvais chanter toujours. Si tu voulais, Daniel.
Toi tu chanteras tout à l'heure.
D'accord.
Donc c'est toujours l'interview de Jean Audouze, astrophysicien, ancien directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et de ça. Je vais pas refaire le tout, mais donc une très grande expérience de l'astrophysique, de la connaissance de l'astronomie, de la cosmologie, etc. Et c'est donc on l'a invité en février pour une conférence sur l'histoire de l'univers. On l'a laissé un peu raconter ce qu'il avait envie de raconter. Et là, vous entendez l'interview que j'ai réalisée auparavant, juste avant la conférence, où il nous a parlé de la synthèse, la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la synthèse des premiers éléments juste après ce qu'on appelle le Big Bang. On ne sait pas si réellement il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de particulier, mais est-ce que c'était la naissance de l'univers? Enfin, ça, c'est encore l'objet et ce sera l'objet, je pense, de très gros débats au XXIe siècle. Alors, dans cette nucléosynthèse, on passe de la physique quantique à la cosmologie des plus grands, de l'infiniment grand avec la relativité, etc. Et là, dans la deuxième partie de l'interview, Jean Audouze a évoqué justement la théorie d'Einstein. Et aussi, un point d'achoppement, c'est que la quantité de matière que l'on connaît, y compris une partie de ce qu'on appelle la matière noire, n'est toujours pas suffisante pour expliquer l'expansion de l'univers. D'ailleurs, l'expansion est en soi un mystère, puisque les choses s'attirent, donc... comment ça se fait qu'elle se repousse? Non, si elle se repousse, c'est que on fait appel au Big Bang, mais enfin, c'est pas aussi simple. Alors, bien entendu, dans cette tous ces phénomènes sont relativement liés. Ce qui est sûr, c'est que la théorie de la relativité est excellemment bien construite, et c'est probablement elle qui va expliquer la physique quantique. C'est du moins ce que cherche à faire Laurent Nottal. Mais écoutons la fin de cette interview de Jean Audouze.
J'ai une dernière question qui n'est pas une petite question, bien sûr, puisque on a entendu parler récemment d'un univers plat. Alors, je sais bien quelle distance il peut y avoir entre la représentation, je dirais, imagée que l'on peut faire des phénomènes à cette échelle-là, entre un univers plat, courbe et tout ce qu'on peut dire. Il ne s'agit bien entendu pas d'une courbure ou d'une platitude d'ordre géométrique, simple en tout cas, mais c'est plutôt de la géométrie de l'espace-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'on entend par un univers plat ?
L'univers plat, il n'y a rien de mystique. Enfin, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne dénomination, parce que ça correspond, si vous voulez, à un univers qui est à la frontière entre un comportement où il va se dilater, disons, de façon continue. Un univers plat se dilate, de toute façon. Mais il suffirait que sa densité globale soit infiniment, disons, pas plus epsilon et il se passe contracté. Ça veut dire simplement que sa courbure est négligeable par rapport à ses dimensions. Alors c'est pour ça. Alors moi j'aurais préféré pour qu'on n'induise pas les gens à cette notion d'univers plat, est une notion qui est un petit peu, comme vous venez de le souligner, qui prête un peu à confusion. On aurait dû dire que c'est un univers d'Einstein de Sitter, parce que ça dit exactement ça. D'Einstein, on pourrait dire. Parce que c'est Einstein qui a découvert qu'effectivement, lorsque l'univers... Globalement, tous les univers s'arrangent pour arriver à avoir une densité globale qui est égale à la densité critique. Ça, c'est une des conséquences de l'hypothèse de l'inflation. Et on s'aperçoit qu'effectivement, alors pour qu'il soit plat, c'est ce qu'ont découvert Boomerang et compagnie, ces dernières expériences, et surtout ce que nous a permis de découvrir ce qu'on appelle le grand programme du télescope Hubble, où on a regardé la distribution des supernovées en fonction de leur distance, et on s'est aperçu qu'elles étaient moins lumineuses que ce qu'on croyait. Donc elles se sont, si on croit que ces supernovées ont gardé une densité, ont gardé une luminosité constante, donc on imagine que l'univers a accéléré son expansion. Et ça, c'est va bien dans le sens où effectivement, la courbure de l'univers devient négligeable par rapport à cette expansion, et d'où le concept d'univers plat. Mais, vous voyez, j'ai besoin de dire un certain nombre de phrases pour expliquer ce concept, et c'est vrai que, de temps en temps, Big Bang, ça n'a pas été un bang, il n'y a pas eu de discontinuité des conditions thermodynamiques, ça n'a pas été Big, puisque c'était vraisemblablement, ça s'est produit dans une... univers plat, la platitude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est un univers qui, au lieu d'être hyperbolique, c'est-à-dire d'avoir une expansion très rapide, ou elliptique, c'est-à-dire d'avoir une contraction, eh bien, il est gentiment parabolique, c'est-à-dire qu'il se conduit le plus simplement possible. Alors j'aurais dit univers standard, c'est-à-dire l'univers le plus vraisemblable, mais le mot plat, effectivement, induit une certaine peu... induire dans les esprits une certaine impropriété.
Je ne voudrais pas faire un jeu de mots facile sur la platitude d'un tel univers qui est finalement banal, parce que derrière Tsénos...
Selon moi, l'univers n'est pas banal. Ça. C'est-à-dire, on est parti, vous voyez, des étoiles, le rayonnement cosmique, même s'il est plat, cette image qui est dans le langage commun ne s'applique pas à l'univers.
C'est ce que j'allais dire, puisqu'il est loin d'être de montrer de la platitude, puisqu'il recèle tellement de, non pas de mystère, mais de tellement de richesses, on pourrait dire, que la science va révéler progressivement et qui nous a déjà fascinés. Merci Jean Audouze.
Merci beaucoup. Merci Daniel.
Donc vous venez d'entendre les trois parties de l'interview de Jean Audouze réalisée le 10 février dernier à l'occasion de sa conférence à Nantes sur l'histoire de l'univers.
Donc rassurer les gens qui ont un peu de mal à suivre, c'est un sujet assez complexe quand même, c'est au niveau de l'histoire de l'univers.
Voilà, les gens nous ont dit, effectivement nous nous disons, venez, les conférences sont pour tout le monde. Alors évidemment, on ne maîtrise pas toujours tous les paramètres, et là on a entendu un grand astrophysicien, il est évident aussi qu'on ne parle pas d'un tel sujet sans quelques... disons, notion un petit peu moins facile que ce qu'on rencontre tous les jours. Mais je crois qu'il ne faut rien exagérer. C'était une très belle conférence.
Non, avec... mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu plus ardu que certains, mais on peut s'y accrocher.
Absolument. On a matière de... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est là, c'est quelqu'un qui parle un peu de l'intérieur, qui a vécu toutes les révolutions, on pourrait dire, de ces 30 dernières années. Là, il a dit aussi qu'il était passé, après quelques années, qu'il était déjà venu à Nantes, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le satellite Kobe, qui a montré l'hétérogénéité, en fait, du fond cosmologique, etc. Alors, sur les histoires de courbure, là aussi, il faut bien s'entendre. Les gens s'imaginent que l'univers, est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est plat, est-ce qu'il est tordu, est-ce qu'il est chiffonné, mais il ne s'agit pas de ce qu'on habituellement, enfin familièrement, on s'imagine, c'est-à-dire une structure géométrique concrète qui aurait une forme ronde ou plate. Non, c'est l'espace-temps, c'est quelque chose d'abstrait, mais ça n'en est pas moins réel. Hein, c'est un peu comme un champ, hein, quand on parle d'un champ électrique, c'est pas quelque chose de concret, et pourtant c'est ce qui fait tourner les moteurs électriques, c'est ce qui fait avancer le tramway, donc en fait... C'est tout simplement une manière de formuler une réalité.
Surtout en plus que c'est une formulation en fait qui est utilisée entre scientifiques qui comprennent ce que ça veut dire.
C'est un peu
ils en abusent de langage. C'est vrai qu'on dit Daniel, c'est un peu leur jargon à eux. C'est vrai que si on prend sorti du contexte, un univers plat, un univers courbe, ça veut rien dire du tout.
Ça ne veut rien dire.
Donc, mais par contre, dans un contexte, ça veut dire en fait que soit il est en expansion totalement, soit il est refermé, soit il va s'arrêter un certain temps.
Oui, puis
temps,
bon, c'est des histoires avec l'énergie, que devient l'énergie, comment comprendre qu'elle se conserve. L'hypothèse d'Einstein, c'est qu'elle est conservée. Enfin, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut évidemment un petit bagage préliminaire, mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les scientifiques, ou de toute façon la science, ça n'est jamais un produit fini, voilà, on presse sur un bouton, c'est pour ça qu'on s'insurge férocement contre cette culture un peu superficielle qu'on voudrait nous faire prendre pour de la culture, qui n'est même pas de l'information, que ces histoires d'internet, etc., c'est très bien, mais ça ne remplacera jamais un travail personnel qui est un mûrissement long, qui prend quelquefois des années, et je crois que si vous voulez vraiment, la science vous intéresse, c'est un bonheur immense, mais ce bonheur, on le conquiert, on le mérite. Ça ne s'attrape pas comme une rougeole.
Comme l'a dit Laurent Montal, je crois que c'est... on en parlera dans la prochaine conférence. Hein, je crois que c'est plus de 10 ans qu'il a bossé sur la théorie.
Mais bien sûr.
Et en fait, il n'y a que maintenant, entre guillemets, ça commence à porter ses fruits. Donc ça veut dire en fait que c'est pour ne pas avoir l'information brute, il faut la travailler et réfléchir, la confronter.
Oui, puis
comme dit Daniel, ce n'est pas en allant chercher une information brute que vous allez comprendre.
Exactement, l'information brute, ça ne vous apprend pas à penser. C'est tout un travail du cerveau. Il faut retourner un peu les phrases. Il faut apprendre à penser différemment. Enfin... On va peut-être raconter des choses là-dessus, mais je pense que ça ne doit pas vous priver d'entendre, en tout cas, un grand conférencier. En tout cas, là, c'était assez dense. Et juste encore un petit mot, on a parlé de cette théorie du Big Bang. Alors, il faut aussi rappeler que à la suite des travaux, donc c'est bien de loin, hein, ça vient des travaux de Hubble sur l'expansion des galaxies. Ce que j'ai appris récemment aussi, c'est que l'école américaine, où il y a beaucoup d'observateurs, c'est assez rigolo parce que Hubble avait observé donc sa relation entre la vitesse de récession, c'est-à-dire la fuite des galaxies et leur distance, et il a fait un gros travail là-dessus avant même de connaître le travail d'Einstein. Alors c'est assez intéressant puisque c'est quand même Einstein, c'est le début du siècle, Hubble c'est 1920, enfin 10 ou 20 ans après, et ce n'est qu'en 26-30 que l'abbé Georges Lemaître a fait son article sur l'hypothèse de l'atome primitif en disant bien attention, ce n'est qu'une hypothèse. D'ailleurs, Fred Hoyle s'en est moqué sur les ondes de la BBC en traitant cette hypothèse de Big Bang. Enfin bref, le mot a eu de la fortune. En tout cas, l'abbé Lemaître n'a pas été lu tout au début. Alors bref, vous voyez que tout ça pour dire que la science, ça avance, et puis on n'est pas forcément toujours d'accord, et qu'on a le droit de penser, nous autres aussi.
Merci Daniel pour rappeler un peu par rapport à ce qu'on a abordé tout à l'heure sur les conférences de cette année, du cycle 2001-2002. Il y a quelques conférences entre guillemets qui sont historiques. Pourquoi ? Puisque ça permet en fait de reparler de gens justement, comme tu dis, l'abbé Lemaître, etc., qui ont fait beaucoup de choses, des fois qui sont occultées, dont on parle très peu actuellement. Et en fait, on apprend beaucoup de choses en retravaillant sur ces personnes.
Oui, puis c'est pas seulement pour faire de l'histoire, mais c'est vrai que l'histoire des sciences nous apprend finalement comment il faut comprendre les notions très actuelles. On ne peut pas les apprendre comme ça, bêtement, comme on le fait, bien sûr, dans les lycées et ailleurs. C'est une pédagogie qui est totalement rétrograde, qui est totalement dépassée maintenant. On intègre l'histoire à la pédagogie.
Tout à fait, tout de même, on en verra le point tout à l'heure, c'est Claudie qui s'attellera, elle a lu un petit livre de Voltaire, et on voit en fait que tous les points qu'il aborde, il y en a quand même un paquet qu'on est encore en train d'aborder dans les années à venir, et dans les années, c'est vraiment actuel, donc c'est vrai que l'histoire, c'est pas simplement pour le plaisir d'apprendre ce qu'il a fait, c'est apprendre, ça apprend beaucoup sur nous.
Oui, c'est retracer un cheminement. Alors, mon cher Thierry,
tout à fait, après la
suite de notre menu.
La suite de notre menu. Donc, en entrée, vous allez avoir une petite pause musicale. En plein de résistance, vous aurez une interview téléphonique, ou plutôt un contact téléphonique avec nos amis qui sont dans les Hautes-Alpes, qui sont en train d'observer à 3000 mètres d'altitude. On va les avoir tout à l'heure. Et pour finir, en dessert, vous aurez Claudie avec son fouet, pour ceux qui savent.
Et nous avons invité une femme savante.
Une femme savante.
Voilà.
On va voir si elle est savante une fois qu'elle aura parlé dans le micro.
Mais toi, t'as pas goûté au fouet encore. Non, non. Donc,
pour ceux qui voudraient se faire des films, en fait, c'est un fouet de cuisine. Hein, c'est pas...
Mais juste pour la chantilly.
Juste pour la chantilly. C'est une spécialiste de la chantilly. On a des spécialistes dans tous les domaines à la salle, y compris en cuisine. Voilà. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Devant Gélis, vous êtes en direct sur Alternante, 90.1 FM à Nantes. Ça s'entend, comme d'habitude. 91 à Saint-Nazaire. voilà, il me coupe. Vous écoutez Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie Nantes. Tout de suite, nous allons vous parler d'une partie astropratique. Et puis, pour faire plus astropratique que l'observation, c'est assez dur, on va vous parler un peu d'observation au pic de Château-Renard. Voilà, donc en fait, nous sommes normalement en ligne avec nos amis qui sont dans les Hautes-Alpes, qui sont en train d'observer. Donc en fait, le principe, c'est qu'en fait, il y a une association qui s'appelle Astroquera, qui possède, qui utilise
un observatoire qui est muni d'un instrument.
De 62 cm, ce qui n'est pas rien. Et en fait, un télescope, oui. En fait, cet observatoire est situé à 3000 mètres d'altitude.
Dans le Queyras.
Dans les Hautes-Alpes. Dans le Queyras. Dans le Kéra,
au-dessus de Saint-Véran d'ailleurs.
Au-dessus de Saint-Véran, tout à fait. Et en fait, le principe, c'est comme un observatoire professionnel, il faut déposer un dossier pour avoir un temps d'observation. Donc il y a deux équipes qui ont déposé des dossiers au niveau de la SAN. Les deux équipes ont été acceptées. Et la première équipe est actuellement...
Forcément, c'est la SAN.
Forcément, c'est la SAN. Et actuellement, dans les Hautes-Alpes. Donc normalement, nous avons Frédéric Brion en ligne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. J'espère que tout le monde nous entend. Moi, en tout cas, je t'entends. Donc, Frédéric Brion, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est celui qui nous présentait d'habitude le ciel du mois. Mais là, il est parti observer son petit ciel à lui.
Il s'est rapproché du ciel.
Il s'est rapproché du ciel. Alors, comment ça se passe là-bas?
Très, très bien. Je dirais, on a un super beau temps. On est arrivé samedi. Il fait très beau depuis samedi. Le ciel est tout bleu. On a eu, je dirais, quelques petits pépins logistiques parce qu'il a fallu monter... sur les 3 heures de montée à l'observatoire, il a fallu monter la moitié du temps à pied parce qu'il y a encore de la neige, même beaucoup de neige.
C'est vrai que vous êtes à 3000 mètres, c'est ça?
On est à 3000 mètres, oui, on est à 3000 mètres, mais on s'est arrêté, j'irai avec les voitures, à peu près à 2500 mètres, sans doute.
Et j'ai une petite question, Frédéric. Hein? Est-ce que Michel a pu monter?
Ah, malheureusement, non.
Non, parce qu'il avait un programme électronique, lui, parce que l'instrument, je ne sais plus trop ce qu'il devait faire, mais comme lui, il est il est électronicien, il s'y connaît beaucoup, il devait faire quelque chose justement pour l'observatoire de Château-Renard.
Non, c'était juste des tests au niveau de la Odine, mais à part ça, je dirais, on n'est pas spécialement venu pour parler de ça, mais donc on est 5 là-haut, on est en train d'observer, là, on est dans la... Je dirais à côté de la coupole, dans la salle de ce qu'on appelle ici la salle des ordinateurs. Et on est en train de faire des images de la Lune, en particulier de la région qui s'appelle Valle Streita. Donc on est devant les ordinateurs et puis on regarde les images que la caméra CCD est en train de nous faire. Donc c'est une partie, je dirais, du programme d'observation de cette semaine, la Lune. On a passé l'année dernière à photographier, toujours avec une caméra CCD, la planète Mars, car je pense qu'on en a parlé lors des dernières émissions. Mars était, dans une très belle période d'observation.
En opposition et
on
très proche.
Spécialement pour ça. Et donc la nuit dernière, on a fait à peu près 3-4 heures de pose photographique, sur Mars.
Quand tu parles de pose photographique, ce sont de la photo traditionnelle ou c'est toujours de l'image CCD qui va être retraitée?
Qui va être traitée derrière, comme toute image CCD, pour, avoir le maximum d'images de Mars pour essayer d'en faire un petit planisphère.
D'accord.
Voilà. Ces images, vous pourrez les voir, bien sûr, prochainement, non, sur Internet, oui, sur notre site.
Sur le seul site Internet.
on les mettra. Donc, autrement, au niveau de la météo, ça se présente comment pour les jours à venir? Parce que vous restez jusqu'à samedi, c'est ça?
Ça se présente assez bien. On devrait avoir peut-être quelques orages mercredi, mais bon, en général, la semaine va être quand même du grand beau temps. Quoi.
Donc là, le programme, donc vous avez encore, donc cette nuit, c'est la Lune, exclusivement la Lune, ou vous faites un peu de Mars?
Non, ce sera la Lune en début de nuit, parce que la Lune se couche en milieu de nuit. Mm-hmm. Et derrière ça, je pense qu'on va faire un peu de visuel sur la planète Mars.
Du rinçage d'œil qu'on dit, alors. Hein? Vous allez vous rincer les yeux, quoi.
Ouais, on va peut-être essayer de dessiner. Si...
Ah, on en a parlé tout à l'heure à l'émission. Hein.
S'il n'y a pas trop de turbulences ce soir. Et on va peut-être aussi faire quelques petits extras comme observer Uranus et Neptune.
Ah oui, ça peut être sympa ça.
Voilà un peu le programme. Bon, les nuits précédentes, je dirais, on a pas mal observé Mars, comme je vous l'ai dit. On a commencé à observer un peu la Lune. On a regardé Vénus ce matin.
Est-ce que tu peux raconter un peu ce qu'on voit quand on est à 3000 mètres avec un télescope de 60 cm, donc ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qu'on voit visuellement, c'est à l'iridium, mais c'est parce que, par opposition à l'image CCD, je veux dire, qui est sur l'écran de l'ordinateur.
Ah là, qu'est-ce qu'on voit? On était en train de faire des photos de Valles Reita, donc c'est une grande vallée lunaire qui fait à peu près 500 km de long.
Là on est sur la Lune, tu dis. Hein.
Là, on est sur la Lune, ouais. On observe la Lune en ce moment. On est en train de faire des images de la Lune. Et on a un petit programme de 3-4 régions de la Lune à faire ce soir avant qu'elle se couche. Donc on est dessus depuis à peu près une petite heure. Quoi.
Donc en fait, votre nuit a commencé à peu près à quelle heure? 21h, vous avez commencé à vous installer, ouais, c'est ça?
Le soleil s'est couché vers 21h30, donc on a commencé un peu avant pour, pointer le télescope sur la Lune et puis faire des images... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technique.
Des images pour pouvoir traiter les images après derrière.
Pour traiter les images qu'on va faire cette nuit. Donc on a commencé aux environs 9h, une demi-heure un peu avant.
Et normalement, s'il fait beau, le programme se finit à quelle heure?
Là, je dirais on en a jusqu'à 5h demain matin. Quoi.
D'accord, donc en fait vous êtes complètement décalé.
Et il faut rappeler aussi qu'ils sont à l'est. Il y a pratiquement 40 à 45 minutes de décalage horaire, c'est-à-dire qu'il fait nuit. 40 minutes plus tôt qu'à Nantes, parce que si les gens demandent, mais non, à 9h30, il ne fait pas nuit.
C'est complètement de l'autre côté de la France, donc voilà. Là où il y a un petit décalage.
Vous êtes en fait, pour les auditeurs, vous êtes au-dessus de Saint-Véran, à 3000 mètres d'altitude, avec un télescope de 62 cm dans un observatoire en totale autonomie. C'est-à-dire que faut que vous montiez votre eau pour y aller là-bas. Il faut aussi que vous êtes autonomie au niveau électricité, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux solaires avec des grosses batteries. Et en fait, vous avez une petite liaison radio par laquelle on peut passer justement le téléphone où on vous entend aujourd'hui. Donc c'est une double liaison radio pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il y a de la radio pour passer de l'observatoire jusqu'au récepteur un peu plus bas dans la vallée. Après, c'est pas les lignes normales. Et puis après, ça repasse par la radio via le terrain.
Là, vous êtes en direct avec l'aventure. Hein. C'est vrai qu'on a une chance. Je voulais encore poser une petite question à Frédéric. Quand je t'ai demandé ce que vous observiez, bien sûr, je pensais à la Lune, mais je pensais aussi à Mars, parce que ça doit être très très beau dans un grand télescope.
Sur Mars, on a eu une bonne nuit la nuit dernière. On a eu des images qui étaient assez impressionnantes quand même. On était dans une région qui s'appelle Crise. C'est une sorte de grand canal sur Mars, et on voyait très très bien ce grand canal qui séparait comment vous expliquer ça,
deux plateaux en fait
assez sombres sur Mars.
Ah oui.
Des régions qui sont
c'est pas des régions qui seraient sous l'emprise d'une tempête de poussière en fait,
pour ceux qui connaissent un peu. Ouais. Et donc là on a suivi pendant toute la nuit, parce qu'on faisait on a fait à peu près 4 heures de pause, mais c'était des pauses très très courtes. Donc on a fait un paquet de séries, on a fait un paquet de séries de photos, et on voyait très très bien l'effet de rotation de la planète, et on voyait bouger ces zones sombres.
Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc là vous êtes jusqu'à samedi pour l'observation. Après, il y a une autre équipe qui part dans 2 semaines, c'est ça? Un peu plus.
Il y a une autre équipe ouais, qui va monter dans à peu près 2 semaines et demie, qui monte un peu après le 14 juillet.
Donc eux par contre, ils vont pas parler de ils vont pas observer Mars ni la Lune. En fait, ils ont un programme sur les nébuleuses planétaires et puis les étoiles variables, non, c'est ça ?
Nébuleuses diffuses et puis nébuleuses étoiles variables.
D'accord.
Donc là, ça va être complètement différent. Là, nous, c'est une mission qui est essentiellement axée sur du planétaire, alors que ça sera plus
du ciel profond.
Du ciel un peu plus profond.
On avait fait il y a 2 ans, une équipe avait fait les nébuleuses planétaires. Donc maintenant on passe aux nébuleuses diffuses, les pépinières d'étoiles.
Voilà. Bon, ben, merci beaucoup Frédéric. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à part... Il fait bon là-bas parce que nous il fait chaud. Hein.
Ah ouais, il fait pas trop froid. On en profite du soleil, on bronze bien à 3000 mètres parce que c'est vrai qu'à 3000 mètres le soleil tape un peu plus fort que je dirais au niveau de la mer. Mais non, on a vraiment très très beau temps, il fait pas très très chaud. Bon, pour vous dire, à 3000 mètres, il fait à peu près 15 degrés en journée. Quoi.
Oh, quelle chance.
Ouais, là, vous avez de la chance, mais ils ont de la neige aussi. Hein.
De ne pas avoir trop chaud. Quoi. Donc c'est un peu plus agréable.
Bon, bah alors si tout se passe bien, tant mieux. Voilà. Tu feras un coucou à tout le monde, bon, tous les observateurs qui sont avec vous. Donc vous êtes 5 en tout, c'est ça?
Oui, on est cinq là-haut, donc tout le monde vous passe le bonjour aussi. Et puis on sera de retour, j'irai dans nos pénates nantaises d'ici la fin de la semaine. Quoi.
On a une petite pensée émue pour Michel qui n'a pas pu monter, j'espère qu'il nous écoute.
Et ouais, puis... je pense qu'il réussira à monter quand même.
Il faut rappeler en fait, que Michel a quelques problèmes pour se déplacer. Et en fait, bah, bien sûr, les 4 km ou je ne sais plus combien vous avez fait à pied, c'était impossible pour lui.
Ouais. C'était impossible parce que ça a été vraiment un... Je dirais assez dur à monter. On était à 1h15 du sommet lorsqu'on a laissé les voitures et monter le matériel, je dirais à dos, c'était quand même assez éprouvant. Surtout qu'on l'a fait 2 fois dans la journée et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on était quand même assez fatigué.
Bon, moi, on va vous laisser observer votre télescope. Je crois que pour ceux les auditeurs, on peut observer ce soir. Hein. Je crois que ça a l'air de dégager aussi. Par contre, on n'aura pas de télescope de 62 cm et on ne sera pas à 3000 mètres.
Voilà.
On en aura peut-être bientôt hein, ici à Nantes. On verra.
On verra, mais on fera monter. Hein,
bonsoir à tous aussi. Hein.
Bonsoir à tous et puis merci d'avoir accepté de passer dans Pulsan, de vous déranger un peu dans votre programme. Et puis, on vous laisse en compagnie de la Lune, c'est ça?
Et de Mars.
De la Lune et de Mars, voilà pour cette nuit.
D'accord.
On est parti pour une grande nuit encore une fois.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne observation.
Allez, merci. Salut.
Au revoir.
Voilà, donc on était en direct téléphonique, hein, comme vous avez pu l'entendre.
La qualité, c'était pas de la frime. Hein.
La qualité est plus ou moins bonne, puisqu'on vous l'expliquait, en fait, il n'y a pas de liaison physique entre l'observatoire qui est à 3000 mètres et puis le petit village de Saint-Véran, qui est le plus haut village d'Europe. Donc c'est une liaison hertzienne. Via les ondes, donc après ça passe par les ondes normales et après ça récupère, on les récupère nous au niveau du téléphone pour après les retransférer au niveau des ondes. Donc là, au niveau technique, ça passait par plein d'endroits. Donc ils étaient dans les Hautes-Alpes.
Tu nous feras un dessin et vous réexpliquera si vous n'avez pas
bien compris. Pour ceux qui n'ont pas compris. Donc maintenant, on va pouvoir aborder la suite de l'émission avec la partie un peu d'histoire où en fait Claudie de Quatre Barbes, notre comtesse préférée, va nous conter justement l'histoire de Micromégas. Alors Claudie, vu que tu sais lire, tu nous as lu un petit livre il n'y a pas si longtemps que ça, tu as été agréablement surprise, je crois savoir. Il s'appelle Micromégas de Voltaire.
Oui. Oui, voilà, parce que je suis allée voir la bibliothèque de la Salle, qui a quand même près de l'ouvrage,
comme chacun sait.
Et j'ai découvert ce tout petit livre qui est très facile à lire.
Donc il fait près 20 pages,
une vingtaine de pages, et avec 7 chapitres de dimension égale, qui se lit très bien d'ailleurs. Et j'étais agréablement surprise parce que Voltaire, les souvenirs d'école, parfois c'est pas toujours évident. Et finalement, on retrouve des choses formidables.
Pour les gens qui ont passé leur bac de français, normalement, ils doivent connaître les dates, mais on va les rappeler un peu, parler un peu de Voltaire, pour le resituer un peu au niveau de sa vie.
Voilà, donc Voltaire, c'est le 18e siècle. Et donc, il est né... Oh, il y a Daniel qui me fait des signes, parce que d'habitude, je suis à la technique et je peste après les gens qui ne parlent pas en face du micro.
Il ne parle pas en face de son micro.
Quelle horreur. Donc,
laisse-toi pas déstabiliser.
Non. Donc, c'est tout ça pour dire que...
Voltaire.
Donc, Voltaire est né au moment sous le règne de Louis XIV, quand même, et il est mort sous le règne de Louis XVI.
Je croyais sous Mitterrand.
Ça, ah non, quand même pas. Non, non, Daniel, tu ne me déstabiliseras pas comme ça. Donc c'est un texte très court et qui raconte des aventures astronomiques quand même. De
Micromégas.
De Micromégas, voilà. Un habitant de la planète, d'une planète qui gravite autour de Sirius.
Alors, il faut quand même rappeler que Micromégas, c'est un jeu de mots de Voltaire, puisque micro veut dire petit et méga veut dire grand. Voilà. Il a fait exprès, quoi.
Mm-hmm. Oui, c'était. D'ailleurs, il développe les thèmes dans son histoire de cette différence d'échelle. D'ailleurs, ça me fait penser à Laurent Nautal, moi, aussitôt. Oui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma lecture, ça m'a fait penser à toutes les conférences de la SAN de cette année.
Mais tu sais que Voltaire était un ardent défenseur des théories de Newton, mm-hmm. qui était l'anglais par opposition aux français que les autres défendaient, notamment la théorie des tourbillons de Descartes. Et Voltaire a pris fait et cause pour la théorie de la gravitation. Donc il était au courant quand même de ce qui se faisait à son époque. Imagine aujourd'hui, tu ne verras pas beaucoup d'écrivains prendre fait et cause pour la théorie de Laurent Nautal. Hein.
Malheureusement. Mm-hmm.
Et c'est ça qui est surprenant, parce qu'en fin de compte, quand on a suivi toutes les conférences de la Société d'astronomie de cette année, on retrouve... Ah mais si, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'est finalement des sujets qui sont d'actualité à notre siècle. On les retrouve à cette époque-là et on découvre que finalement Voltaire, on s'imagine quelque chose de très figé, parce qu'on s'imagine un vieil écrivain de...
Ah non, il avait une plume superbe.
Et il était complètement branché sur son actualité et on découvre, il nous parle dans différents chapitres de l'expédition de Maupertuis.
Ah oui.
Quand même, dont on a parlé avec Jacques Gapaillard.
Absolument.
C'était là, n'est-ce pas, pour mesurer
la forme de la Terre. A-t-elle la forme d'une poire? Alors, dans les lettres philosophiques, d'ailleurs, il s'amuse en disant « Certains prétendent qu'elle aurait la forme d'une orange, d'une mandarine, d'autres la forme d'une poire. » Enfin bref, et c'est très amusant à lire ces choses-là. Alors, c'est d'autant plus amusant, c'est pour ça que je vous dis ça, ô chers amis. Cultivez-vous en science, parce que la littérature sera encore plus savoureuse. Moi, je ne comprends pas qu'un littéraire puisse goûter Voltaire s'il n'a aucune notion de science. Il perd la moitié de la substance.
Donc là, justement, absolument, on a pris un livre, on a les deux.
Ah là, j'ai redécouvert en plus. Bon, c'est vrai que j'en avais entendu parler quand j'étais au lycée. C'était vieux déjà. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas lu de cette façon-là, avec l'éclairage de... Effectivement,
et tu ne pouvais pas comprendre.
Je ne l'avais pas apprécié autant que cette fois-ci, effectivement.
Donc là, en fait, il y a plusieurs points qu'il aborde, hein, donc Micromégas.
Il parle, effectivement...
C'est quoi l'histoire un peu du livre?
L'histoire, c'est un scientifique qui habite donc une planète qui est à côté de Sirius, dans la constellation du Grand Chien.
Voilà. Sirius, rappelons-le, c'est l'étoile la plus brillante du Grand Chien, c'est en dessous d'Orion. C'est aussi une étoile très proche, elle n'est qu'à 10 années-lumière. C'est pour ça qu'elle est très brillante, parce qu'elle est à peine plus grosse que le Soleil. Hein, c'est un peu notre étoile sœur, en quelque sorte.
Mmh. Donc Micromégas se fait chasser quand même, c'est un scientifique et un écrivain, et il se fait chasser sous un prétexte assez amusant quand même. Il est condamné à l'exil, un exil de 800 années, parce qu'il a fait un livre sur la forme substantielle des colimaçons et des puces de Sirius. Alors il s'est fait chasser parce que franchement, ça fait déplu aux gens qui gouvernaient.
Enfin, cette idée quand même de remettre en cause la théorie dominante sur la forme des colimaçons et la substance des limaces.
Donc c'était un livre hérétique sentant l'hérésie, donc c'est comme ça qu'il s'est fait chasser de Sirius. Et par le fait, comme il connaît beaucoup de choses quand même, c'est un scientifique, il se déplace pour... donc il va sur Saturne, et ensuite... il entreprend avec le secrétaire de l'Académie de Saturne un voyage d'études. Alors, il passe à côté de Mars. Alors là, il y a quelques petites erreurs scientifiques, on va dire, puisqu'il nous dit que Mars est 5 fois plus petite que la Terre. Je crois qu'il y a une petite erreur.
Il faudrait vérifier si de son temps, on ne le pensait pas. Parce que Voltaire, il ne dit pas n'importe quoi. Enfin, il n'écrit pas n'importe quoi.
À l'époque actuelle, c'est une erreur. Par contre, à l'époque,
c'était peut-être...
Ce sera un point à éclaircir, on vous donnera le...
Ouais. Et donc,
Claudie se fera un plaisir de l'éclaircir.
Oui, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai vu juste sur les connaissances de maintenant, mais effectivement. Donc,
il arrive à Mars, c'est ça? Il part de Saturne?
Oui, il passe sur Mars. Après, en sautant sur la queue d'une comète, il atterrit sur la Terre. Et là, encore une précision qui nous ramène aux conférences de la Société d'Astronomie, encore une fois, sur les calendriers, parce qu'il nous dit qu'ils atterrissent le 5 juillet 1737, nouveau style. Et il fait allusion à la réforme du calendrier du pape Grégoire XIII, dont on a entendu parler avec Françoise Faguer.
Et bien voilà, et quand on ne sait pas ça, on se dit, pourquoi il dit ça, Voltaire, voilà. Par contre, ça montre qu'il est quand même assez...
Il était très, très au fait de l'actualité. Ouais. Hein.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'émission Pulsar du 23 juillet qui sera consacrée au calendrier.
Ah oui, alors écoutez, celle du 23 juillet qui aura bien lieu le 23 juillet, malgré les réformes du calendrier dont on vous parlera.
Voilà.
Donc tout se rapporte à ça. Et donc ils arrivent donc sur la Terre. Et à ce moment-là, on retrouve quand même l'humour de Voltaire, parce qu'il nous explique le naufrage de l'expédition de Maupertuis, en disant que c'était Micromégas qui voit cette petite chose microscopique sur l'océan. Et c'est comme ça que Maupertuis aurait fait naufrage. Donc,
à cause de Micromégas.
Voilà. Parce qu'en fin de compte, en réalité, il y avait eu un naufrage. Hein, donc il y a une explication assez fantaisiste de ça. Et il nous explique quand même que les scientifiques sur ce petit bateau qui semble minuscule pour Micromégas arrivent à le mesurer par suite d'opérations et par suite de mesures de triangles liés ensemble. Donc ce qu'on a entendu avec M. Capaillard.
Et voilà.
Tout à fait.
Ben oui.
Et tout ça retombe. Et c'est là où j'ai vraiment découvert des choses sous un autre angle, parce que connaissant tout ce qu'on a vu cette année... On est vraiment complètement bien dans l'actualité du moment.
Mais c'est merveilleux ce que tu dis, parce que finalement, nous, on n'y a pas franchement pensé, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les choses sont liées, que l'histoire va nous expliquer comment les connaissances se construisent, et que, en fait, Voltaire, c'est quelqu'un qui était curieux, comme les philosophes de son temps, qui était curieux de tout, parce que quand on pense... Eh bien, on pense avec de la matière, on pense pas uniquement en s'asseyant sur un tas de foin et en attendant l'inspiration divine. Il faut avoir des connaissances réelles.
Ah oui, puis c'était vraiment très scientifique quand même. Donc, Micromégas prend contact avec les habitants de la Terre, en fin de compte, et ça nous amène à réfléchir sur notre propre condition. Donc, il y a une chose qui m'a assez plu, pour conclure, Micromégas disait qu'il était un peu fâché de voir que des infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand.
Ah, ça, c'est
il
aussi
conclut
actuel,
sur ce genre de choses, et je trouve que c'est encore très bien dans l'actualité du moment. Donc, j'invite tous nos auditeurs à se replonger, peut-être avec un œil neuf, parce que je vous dis, à l'école, parfois, on n'a pas de très bons souvenirs de ça. Et de l'apprécier à sa juste valeur.
Donc, comme tu dis, c'est un petit livre d'une vingtaine de pages.
Ah oui, très court.
Très court, très
c'est
facile à lire.
C'est
en plus de l'astronomie, donc ça peut que vous inciter à le lire.
Puis, la
et
philosophie aussi. La philosophie, bien écrit et pas long à lire pour bon, maintenant,
pour lire sur
certaines
la plage,
personnes
l'été.
Ont du mal à lire quand même. C'est quelque chose qui se lit en une heure ou deux.
Non, c'est très bien. Merci Claudie.
Voilà. De rien Thierry, c'était un plaisir.
Donc c'est bien un peu, ça change un peu de... On la réinvitera. Ah, oui. Allez bien.
Elle dit bien beaucoup de bien de la Sanne.
Ouais.
J'aime beaucoup.
C'est une vraie bonne adhérente, comme on dit.
Mais c'est simplement que ça correspondait. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai découvert ça en me disant, mais ça retombe toujours bien sur toutes ces choses-là.
Donc on continuera à vous parler un peu des livres qu'on
c'est
peut
une
lire.
Bonne idée,
hein.
C'est
des choses qui sont intéressantes.
Ou les lettres philosophiques aussi, il y a des choses intéressantes sur le Clonfly, Newton, Descartes, puis plein d'autres.
Il y a plein de choses à dire, donc les émissions pulsantes se remplissent allègrement.
Ah oui.
Donc on a plein de sujets. Justement, transition toute trouvée pour arriver à la conclusion de l'émission. En fait, la prochaine émission pulsante, c'est le lundi 9 juillet, pour nous parler un peu de la partie sur Laurent Nautal, sur la morphogénèse gravitationnelle et la relativité d'échelle.
Oui, l'apparition spontanée de structures. Ça, c'est encore une grande nouveauté, mais qui rejoint ce qu'on observe maintenant en biologie, enfin bref. Dans les théories intelligentes, évidemment, parce que les biologistes n'ont pas besoin de théorie, paraît-il, pour penser, enfin pour ne pas penser, dirais-je.
On va dire plutôt. Ne pas oublier qu'en fait, alternante se met entre guillemets un peu en vacances au mois d'août, donc nous aussi, donc en fait il n'y aura pas d'émission pulsante au mois d'août. Donc la prochaine c'est le 9 juillet, celle d'après sera le 23, et en fait on commencera normalement, la date n'est pas encore fixe, le 3 septembre. Normalement, l'émission de la première du nouveau cycle 2001.
Oui, parce que Alternante ferme au mois d'août. Donc, il reste une émission, mon cher Thierry.
Deux émissions. 9 juillet, 23 juillet.
Oui.
Voilà, merci à tous les participants. N'oubliez pas qu'il y a Mars à observer. Vous pouvez aller sur le site internet pour avoir plus d'informations pour les conférences du cycle à venir.
N'oubliez pas d'aller le 29 juin observer sur le tumulus
de Saint-Lazare.
Voilà.
C'était l'émission Pulsane de la Société d'Astronomie Nantes en direct avec Claudie, Daniel et puis à la technique Frédéric et Jean. N'oubliez pas le petit dicton du jour, comme d'habitude, à la Saint-Salomon pour l'observation de Mars. Le meilleur endroit, ce n'est surtout pas votre balcon.
Mais alors là, pour les Alexandrins, tu repasseras. Il va falloir mettre au point cette histoire de pied.
Tout à fait.
Pour prendre son pied en poésie.
T'as raison. Tout de suite, nous vous laissons en compagnie du Straight Talk. Underground radio waves. On the track.